Journée de la radio, 7h, 18h, faites-vous entendre.
Merci beaucoup Maëlys pour cette émission et hasard de la grille, nous te retrouvons tout de suite pour cette dernière demi-heure consacrée à la philosophie.
Pas des philosophes.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Pourquoi pas des philosophes, votre émission de philosophie sur les ondes de Transistor. Émission qui renaît ce soir après des années de silence et je suis ravie d'être avec vous pour faire vivre notre passion commune pour cette noble discipline qu'est la philosophie. Nous recevons aujourd'hui en direct et en public le philosophe Nicolas Clément, que chacun connaît pour sa mise en évidence des éclairages apportés par la philosophie kantienne sur la place de l'imaginaire dans notre conception de la politique. Nicolas Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous publiez aux Presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Fantasmes et politiques, des mondes en guerre ?» pour l'interrogation. Pourriez-vous nous introduire brièvement aux travaux que vous y exposez ?
Alors oui, il s'agit de réflexions issues de ma thèse, soutenue en Sorbonne en 2013. Il s'agit de penser la politique à partir de Kant, car cela me paraît pouvoir apporter un éclairage important dans le contexte actuel. Alors je mobilise le concept kantien de l'impératif catégorique, ce que Kant définit sobrement dans les fondements de la métaphysique des mœurs, agit seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir, en même temps, qu'elle devienne une loi universelle. L'enjeu, c'est de définir une morale, et la morale, c'est important, car cela devrait guider l'action politique. On le voit dans le contexte de cette actuel de cette campagne électorale. Le fantasme, lui, est souvent opposé à la morale. On revoit ça du côté de l'irresponsable, du hors-norme, du rêve. François Fillon décrédibilise tous ses adversaires en les dénonçant comme hors-norme. Or, le fantasme, ça a une vocation politique. Le fantasme, on veut l'assouvir, on veut le faire advenir, c'est une volonté de changer le réel, et c'est donc quelque chose d'universalisable. Pardon. On retombe donc finalement sur l'impératif catégorique kantien, puisque ce concept implique une universalité. Changer le réel, c'est vouloir universaliser une idée.
Excusez-nous, Maëlys, monsieur Clément, chers auditeurs. Une information capitale vient d'être publiée. Nous interrompons temporairement nos programmes pour une édition spéciale. Rebonsoir à tous, une édition spéciale car la nouvelle vient d'être rendue officielle. Marine Le Pen a perdu la vie cet après-midi dans l'incendie du château de Montretout. Une nouvelle qu'on a d'abord du mal à croire, Pierre.
Tout à fait, Eva, et c'est un communiqué de la préfecture de police qui confirme les rumeurs, laconiques. Le feu s'est déclaré dans le château de la famille Le Pen à Montretout, aux environs de 15h30 cet après-midi. Et les corps sans vie des 6 personnes qui s'y trouvaient ont été découverts vers 17h, lorsque les pompiers ont réussi à maîtriser le feu. Parmi ces corps, celui de la candidate du Front National à l'élection présidentielle, Marine Le Pen.
Un événement qui bouleverse tout le champ politique français à quelques encablures du premier tour.
Oui, et les réactions ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux. Le compte officiel du Front National s'est fendu d'un sobre, stupéfaction et douleur face à cette perte qui affecte la nation entière. Mais le premier à réagir était le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Je cite « Aux côtés de tous les Français, je suis solidaire de la tristesse de la famille Le Pen, par-delà tous les clivages politiques. » Fin de citation. L'Élysée ne s'est pour l'instant pas exprimé sur ce drame qui, comme vous le dites, rebat complètement les cartes de l'élection à venir.
Et justement, notre spécialiste en question juridique vient de nous rejoindre en plateau. Bonsoir Robin, pouvez-vous nous dire ce que prévoit la loi dans une telle situation ?
Bonsoir Eva, bonsoir Pierre. Depuis une révision constitutionnelle de 1976, il est prévu qu'en cas d'empêchement d'un des candidats au premier tour, le Conseil constitutionnel se réunisse et prononce le report de l'élection à un délai d'au plus 35 jours. Compte tenu du calendrier électoral, si l'on veut maintenir les élections législatives du 11 juin, ce qui semble probable quand on sait la logistique qu'impliquent ces élections, le report devrait être de seulement 21 jours, à savoir un premier tour le 14 mai et un second tour le 28 mai. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions. Cela dit, la solution aurait pu être pire. En cas d'empêchement d'un des deux finalistes de l'élection, donc entre les deux tours, tout le processus électoral devrait recommencer à zéro et serait donc reporté de plusieurs mois.
Merci beaucoup Robin pour ces éclairages. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tous les développements de cette affaire. Mais pour l'instant, nous sommes en liaison par téléphone depuis Nanterre avec un homme vers qui tous les regards se tournent déjà. Bonsoir Florian Philippot.
Bonsoir à vous.
Alors d'abord, un immense merci pour avoir accepté de répondre à quelques questions. Comment réagissez-vous au drame qui s'abat sur votre parti ?
Évidemment, nous ressentons tous une grande tristesse. Je pense que la France vient sans conteste de perdre une grande femme d'État. Mais avant tout, mes pensées vont bien sûr à ses enfants, à sa famille, car elle était avant tout une mère. Et puis à tout le peuple français, aux côtés duquel Marine s'est toujours battue avec ferveur.
Commencez-vous déjà à envisager la suite de la campagne ?
Évidemment, nous demandons l'annulation pure et simple de cette élection présidentielle, sans quoi des millions de Français seront laissés orphelins. Car ces Français qui refusent de se faire voler le scrutin par une classe politique démagogue qui n'hésitera pas à faire feu à utiliser cette tragédie pour passer en force.
Merci beaucoup Florian Philippot. Vous étiez contacté par téléphone depuis le siège du Front National à Nanterre, grâce à nos collègues de Transmission. Et tout de suite, nous retrouvons Rémi en direct des studios de BFM où Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon vont s'exprimer d'ici une heure.
Bonsoir Eva. En effet, les deux principaux candidats de gauche n'ont pas annulé leur intervention de ce soir et sont sur le point d'arriver dans les locaux de BFM où ils s'exprimeront à 19h après les événements qui les mettent dans une position difficile puisque la retenue est de mise malgré les incompatibilités de leur vision avec celle que défendait Marine Le Pen. Pourtant, ils voudront éviter de contribuer à sanctifier la candidate du Front National et... Ah. Attendez, quelque chose semble se passer à l'extérieur, je m'avance. Tout le monde court vers la sortie. Je suis en marche, c'est sans doute l'arrivée des deux candidats. Oh mon Dieu. Attendez, je m'approche, je suis sur le parking de BFM TV. Deux berlines noires se sont écrasées l'une contre l'autre. Attendez, permettez que je m'avance. Oh mon Dieu, mon Dieu. Attends, chers auditeurs, le spectacle est terrible ici en direct de BFM où Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon viennent de périr dans ce terrible accident. Les techniciens sortent des bureaux stupéfaits, enfin, la stupeur est vraiment totale. Chacun pense aux conséquences dramatiques de cette désormais triple tragédie, bien sûr. Et voilà Ruth Elkrief qui filme la scène avec son téléphone. Bonsoir Madame Elkrief, quel spectacle terrifiant.
Ah oui, bah, bonsoir, c'est époustouflant, on est vraiment en train d'observer l'histoire en marche. Les événements auxquels assistent les auditeurs sont uniques, les faits seuls sont... implacable comme ce qu'on vient de vivre ici à BFM TV. C'est vraiment l'histoire en marche. On ne peut qu'observer et en garder quelques images pour les montrer au monde entier. Ce téléphone avec lequel je filme, avec lequel les gens filment l'actu tous les jours dans le monde, sachez-le, oui, ce téléphone, voilà notre arme pour affronter le quotidien. Voilà ce qui fait notre supériorité sur la presse d'investigation. Ah, beau métier vraiment que le nôtre, monsieur. Il n'y a pas à dire. Bon, je remonte en plateau.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Retour en plateau aussi sur Transistor.
Merci beaucoup Rémi. Nouvelle bouleversante dont vous venez d'être témoin. Madame Elkrief parlait de l'importance des faits. Je pense que nous avons tous besoin d'un petit résumé de ceux de cette fin d'après-midi. Et c'est avec toi, Pierre.
Rebonsoir Eva. Rappel des titres donc avec tout d'abord la disparition de Marine Le Pen dans l'incendie du château de Montretout cet après-midi. Évidemment, nous demandons l'annulation pure et simple de cette élection présidentielle annoncée déjà Florian Philippot sur nos ondes. Et puis, vous venez de l'apprendre et l'information a été confirmée à l'instant par le porte-parole du Parti Socialiste. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont tous les deux morts dans un accident de voiture sur le parking des studios de BFM TV où ils se rendaient pour une interview. L'Élysée ne s'est toujours pas exprimé, mais il est désormais quasiment certain que l'élection présidentielle sera annulée. Il faut néanmoins que le Conseil constitutionnel se prononce formellement sur ce point dans les jours à venir.
Merci beaucoup Pierre, et je me tourne vers vous, Nicolas Clément. Vous êtes philosophe, vous êtes l'invité de Pourquoi pas des philosophes. Quel regard portez-vous sur ces événements tragiques ?
Évidemment, ce qui se passe est absolument horrible et inattendu. Et à propos de ce mot tragique, vous savez, Karl Marx disait à propos de tous les grands événements de l'histoire qu'ils se reproduisaient deux fois. La première fois de manière tragique, la seconde fois comme farce. Et c'est pour dépasser un peu cela que je pense que le lien entre le fantasme et la politique doit être retissé. Pourquoi une répétition serait-elle forcément farcesque? Eh bien, je pense que cela tient au paradigme heideggerien, vous savez, qui imprègne notre société. Le Dasein, un retour sur soi, un refus d'universaliser. Je pense que quand notre société subit des traumas comme celui-là, il faut dépasser le soi. Et oui.
Merci beaucoup pour cette réaction face à une actualité brûlante, face à laquelle nous avons tous du mal, je crois, à prendre du recul. Et nous vous laissons, chers auditeurs, pour un instant, le temps de tourner une page de publicité.
Votre magasin Douceur du Foyer ouvre son nouveau showroom. 65 mètres carrés consacrés à un chauffage de qualité, à l'intégration des technologies les plus récentes et au plaisir du feu. Depuis plus de 30 ans, nous sommes à votre service et entretenons la flamme de votre confort. Le nouveau showroom de Douceur du Foyer ouvre dès demain, 453 avenue Jeanne d'Arc, à Vénissieux.
Ah non, mes 4 francs, viens de me lâcher!
Pas de problème, pare-brise, carrosserie, révision, réparation, avec la belle carrosserie populaire, restez insoumis au tremblement de la route.
Ne mettez pas en francs, votre avenir est radieux!
Belle carrosserie populaire, Zach Dumarchais, Lyon 8e.
Et à la deuxième visite, la jante allée universelle est offerte!
Vous tenez à vos proches, ne leur faites pas davantage de peine lors de votre décès. À la régie funéraire du Mans, nous nous occupons de tout pour alléger le poids du deuil. Cercueil, concession, fleurs et crémation, souscrivez dès aujourd'hui à notre formule complète. Pour que vos proches aient toujours la meilleure image de vous, franchissez le pas et découvrez toutes nos offres sur www.régiefunéraire-du-mans.fr. La Régie Funéraire du Mans, le deuil en toute tranquillité.
Vous êtes sur Transistor et nous recevons tout de suite sur... Nous revenons tout de suite sur les nouvelles terribles qui ont secoué notre journée. Mais d'abord, une exclusivité Transistor. Revenons sur la partie fine qui aurait dégénéré au siège du MEDEF alors que l'identité des victimes n'est pas encore connue. Nous écoutons tout de suite notre collègue Quentin Barthélémy, survivant.
J'avais laissé Macron dans les mains de Christine Lagarde lorsque ça a éclaté. Et une fois dehors, ni lui ni François Fillon n'étaient dans le groupe des rescapés. Je crois qu'ils n'ont pas survécu à l'explosion.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Quentin Barthélémy. Vous l'avez compris, chers auditeurs, il semble bien que François Fillon et Emmanuel Macron, tous deux présidents au siège du MEDEF, aient perdu la vie dans l'explosion qui a eu lieu la nuit dernière. Jean-François Copé l'a confirmé dans un tweet lacunaire. La droite perd deux grands hommes. Une tragédie de plus pour la scène politique française et pour l'avenir de la nation.
Oui, en effet, les événements d'aujourd'hui semblent se répéter d'heure en heure de façon absolument inéluctable. Il paraît inévitable que l'élection présidentielle doive être définitivement annulée. On attend toujours la déclaration du chef de l'État, François Hollande, pour revenir sur cette tragédie politique.
Oui, effectivement, tragédie politique, nous sommes tous sous le choc. En attendant la déclaration de François Hollande, nous avons au téléphone Christine Boutin, ancienne ministre de François Fillon qui soutenait sa candidature à l'élection présidentielle. Bonjour Christine Boutin, quelle est votre réaction face au récent événement?
Ah, je ne peux qu'être atterrée par la mort de Marine Le Pen et François Fillon. Avouez-moi que politiquement, je prie pour ces deux fervents chrétiens et défenseurs de la famille, mais l'hécatombe qui s'abat sur la France ne peut que me faire penser qu'il s'agit d'un dessein divin. La France, en reniant son attachement à ses racines chrétiennes et en déstabilisant les fondements de notre société. J'avais bien sûr parlé de la famille. Eh bien oui, je crois qu'une colère divine s'est abattue sur la classe politique française, sur la France. Celle-ci est maudite, fautive d'avoir trop avancé la volonté de notre créateur et les lois de la nature qui les a instituées. Je redoute grandement les jours à venir et je continue de prier pour la France.
Merci Christine Boutin pour cette réaction à chaud. Je vous rappelle que nous sommes sur Transistor, les événements sont terribles. Mais puisque nous sommes officiellement toujours en campagne électorale, il nous faut respecter l'équité du temps de parole. Nous avons eu au téléphone Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle. Bonjour Madame Arthaud. Comment réagissez-vous à cette série de décès ?
On a droit depuis quelques heures au ballet de la classe politique qui se soutient mutuellement. Est-ce que je suis triste de la mort des candidats à l'élection présidentielle ? Je suis triste pour leurs proches, mais surtout pas pour les idées qu'ils représentaient, tous autant qu'ils sont. Je suis profondément choquée de voir qu'on s'apitoie plus sur la mort de politicards capitalistes pourris que sur le sort des travailleurs opprimés, oppressés par la caste bourgeoise et capitaliste. Moi, je ne suis que pour les travailleuses et les travailleurs qui, eux, n'en ont rien à faire. Je crois que ces morts sont aussi le signe d'une caste politique à bout de souffle, rongée de l'intérieur par l'argent. Et il est temps que le peuple français se soulève contre cette classe oppressante. Non, je ne m'apitoie pas. Tant que le grand capital a un souffle de vie, je ne m'apitoierai pas sur le sort de ceux qui en sont les chantres. Pleure-t-il sur les morts des ouvriers et des travailleurs ?
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, pour cette déclaration sur notre antenne. Le président de la République, François Hollande, va prendre la parole d'un instant à l'autre. J'attends confirmation.
Oui, bonsoir Eva. Effectivement, le président de la République est sur le point de s'exprimer. Et attendez, je le vois, c'est lui qui arrive.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, si on regarde une ampleur sans précédent, sont en cours.
Je crois qu'il y a donc un problème avec la connexion à l'Élysée. Pouvez-vous nous retranscrire ce qu'est en train de dire le président de la République ?
Oui, bien sûr. Le président est revenu sur les différents décès qui ont émaillé cette journée. Décès qu'il a qualifiés de tragédie innommable, qui touche de plein fouet le fonctionnement démocratique de nos institutions. Selon l'état-major des armées et les renseignements généraux, il s'agirait non pas de morts accidentelles, mais d'attentats orchestrés par la Corée du Nord. Oui, vous avez bien entendu, la Corée du Nord. Le président de la République vient donc de déclarer qu'il saisirait le Parlement pour déclarer la guerre à la Corée du Nord, qui vient de déclarer la guerre à la France, et qu'il demandait de ce fait l'activation de l'article 16 de la Constitution. Article qui, rappelons-le, donne les pleins pouvoirs au président de la République. François Hollande a rappelé sa détermination à protéger le peuple français et à assurer l'indépendance de notre nation.
Merci Alice pour ce compte-rendu du discours du président de la République. Vous l'aurez compris, la France vient d'entrer en guerre avec la Corée du Nord. Je crois que nous pouvons dire que nous vivons un moment historique. Je me tourne maintenant vers Robin, notre expert juridique. Robin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'article 16 de la Constitution ?
Eh bien, l'article 16 de la Constitution de la Ve République est un article de la Constitution de 1958, connu comme celui qui, en période de crise, permet de donner les pleins pouvoirs au président de la République française. De manière plus mesurée, le Conseil d'État parle de « pouvoir exceptionnel ». Je cite une partie de l'article. « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Ce pouvoir est limité. 30 jours après le début de l'exercice des pleins pouvoirs, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour déterminer si la situation remplit les critères de l'article 16. Il se réunit encore une fois après 60 jours, et autant de fois qu'il le souhaite après ce délai.
Merci Robin pour ces éclaircissements. Nous sommes allés aujourd'hui mesurer l'opinion de la population. Notre journaliste était à Melun et a recueilli le témoignage des passants.
Bonsoir Eva, ici à Melun, la situation est étonnamment calme malgré les événements. J'ai seulement trouvé une dame. Bonsoir, comment vivez-vous de l'annonce de la guerre ?
La guerre, c'est quoi la guerre ? Qu'est-ce que vous en savez, vous, de la guerre, hein ? Moi je l'ai connue, vous savez. J'ai déjà été tondue en 44, alors moi, les Coréens, hein ? Voilà.
Madame...
En vérité, moi ce qui me gêne le plus, c'est les yeux.
Madame,
hein ?
Mais...
Enfin bon, hein, ça... Bien sûr, on n'a pas le droit de le dire. De toute façon, vous savez, moi, la politique, hein ?
Mais enfin, madame...
Ils peuvent bien tous crever, les gens de mon âge, on a tenu madame... jusqu'ici, et on tiendra encore avec nos rhumatismes, hein ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font pour mes rhumatismes, hein ? Hein ? Et la sécu, hein ? Parce qu'avec tous ceux qui arrivent, là, hein ? Ces bolcheviques... Bon, Kiki ! Kiki ! Kiki, non mais il est où ce con ? Non mais viens, au pied ! Non mais arrête de renifler les journalistes, hein, c'est dégueulasse ! Non mais, ils sont dégueux, hein ? Allez,
oui, madame.
Allez, Kiki, on se casse.
Merci beaucoup, madame, et tout de suite, retour sur le plateau de Lyon.
Merci pour avoir recueilli ce témoignage. Un petit point de nouveau sur l'actualité de cette journée. La Corée a déclaré la guerre à la France, vient de déclarer le président de la République. Nous avons la déclaration du guide suprême nord-coréen Kim Jong-un, traduite par notre interprète.
지내하는 동지들, 영영한
camarades prolétaires, l'heure est venue de détruire l'impérialisme français qui étouffe sous son joug capitaliste la révolution des travailleurs. J'ai décidé de faire de la France un avant-poste de la démocratie socialiste en Europe et en Occident et de placer à sa tête mon cousin Kim Jacques Cheminade pour la mener sereinement vers les lumières de la dictature du prolétariat. J'ai donc décidé d'éliminer tous les renégats à la cause du peuple qui briguaient le pouvoir dans la mascarade électorale organisée par le grand capital. J'appelle le peuple français à se libérer de lui-même et à soutenir le guide Cheminade et les forces armées que nous envoyons actuellement sur place.
Vous venez d'entendre le guide suprême nord-coréen sur notre antenne. Tout de suite, un rappel des titres.
La Corée du Nord a déclaré la guerre à la France pour mettre à la tête de l'État Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. La Corée du Nord est donc responsable des morts de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Macron. Le président de la République française, François Hollande, a activé l'article 16 de la Constitution. Nous attendons encore la réaction des dirigeants européens et internationaux. Jacques Cheminade n'a pas encore pris la parole. La Corée du Nord envisage un coup d'État pour mettre à la tête de l'État le président du parti Solidarité et Progrès.
Et tout de suite, nous sommes en direct avec l'Élysée, grâce à notre envoyé spécial qui se trouve devant le palais présidentiel.
Oui, je suis devant le palais de l'Élysée. Le président a fait une déclaration très grave à l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe ? La police vient de bloquer les rues entourant l'Élysée. Des milices cheminadistes essayent de s'introduire dans l'enceinte du palais. Je ne sais pas ce qui se passe.
Allô, Paris ? Paris, on vient de perdre la liaison. Allô ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, que faites-vous dans le studio ?
Priorité au direct, Cheminade contre attaque. Une fiction écrite par Rémi Cerda et Mathias Soubise. Par ordre d'apparition, vous avez entendu Eva Chaussinant, Maëlys Barre, Clément Nicole, Pierre Lemoyle, Robin Lenoir, Mathias Soubise, Rémi Cerda, Marie Lécuyer, Clémence Large, Gaël Gino, Anastasia Kozireva, Marie Blanc, Quentin Barthélémy, Aurore Sosportes, Céline Autin, Alice Rabidou, Solène Baron et Myriam Mélouli. À la réalisation, beaucoup de gens au jingle, Léo Bonin, Maxime Dorier, Jean-Philippe Michaud. Et tout de suite, comme promis, nous revenons au programme que nous avions interrompu.
Nicolas Clément, où en est-on déjà ?
Alors, je vais vous parler du néolibéralisme heideggerien. Ce néolibéralisme nous vend du rêve. On rêve d'être mannequin, on rêve d'être cet acteur, on rêve d'être cette starlette. Mais on ne fantasme plus du tout dans un tel projet de société. Le néolibéralisme de Guerin nous astreint à ne plus pouvoir créer, mais à ne plus pouvoir envisager le rêve.
C'était Priorité au direct.